au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois. Bienvenue à cette émission au gré du temps de la série Destination Bonheur. Notre invité cette semaine est policier au service de police de la ville de Montréal depuis maintenant 14 ans. Cependant, ses fonctions, il les exerce non pas dans une voiture patrouille, mais davantage par une présence soutenue au sein des médias. Responsable du module Relations médias, ce module gère annuellement les milliers d'entrevues de presse qu'accordent les services policiers. Et depuis 2004, il occupe, en parallèle à sa carrière policière, la fonction d'officier aux affaires publiques pour la Défense nationale et participe également à la formation des porte-paroles policiers à travers tout le Québec. Nous recevons aujourd'hui avec grand plaisir M. Yann Lafrenière. Bonjour, M. Lafrenière.
Bonjour à vous, M. Dubois.
Effectivement, si vous nous donniez quelques petites pistes concernant votre fonction.
Quelques petites pistes, mais j'ai commencé comme relationniste il y a de cela plusieurs années, 10 ans. Et finalement, maintenant, comme vous avez mentionné, je suis en charge d'un bureau de relations médias. Et mon travail, mais c'est justement d'être en contact de façon quotidienne avec les journalistes dans le but bien précis d'informer la population sur ce qui se passe. Vous savez, l'actualité policière fait souvent les premières pages des médias écrits et les débuts de bulletins de nouvelles. Alors, je pense que vous avez bien cerné le fait qu'on est un service hyper sollicité, près de 25 000 demandes de journalistes par année.
C'est beaucoup.
C'est énorme. Vous savez, vous avez parlé de mon parallèle dans ma vie militaire où je me bats plutôt pour que les médias s'intéressent à nous. Et dans la police, il y a des jours où j'aimerais ça qu'ils oublient mon numéro. C'est vraiment, vraiment l'inverse. Je travaille aux deux antipodes, c'est ce qui est de très intéressant. À la Défense, on essaie vraiment d'intéresser les gens à la cause militaire. Bon, depuis quelques années, avec les déploiements en Afghanistan, c'est l'inverse. Là, on est très sollicité. Mais normalement, c'est le genre de service où on court après les médias, où on tente de se faire connaître. Et dans la police, mais je vous dirais que ça se bouscule aux portes. On va avoir de l'information. Les gens veulent savoir ce qui se passe sur l'île de Montréal.
Mais vos fonctions cristallisent très bien l'importance qu'accordent les forces de l'ordre, qu'on parle de services policiers ou de défense nationale, à la communication.
Vous savez, on n'a pas le choix. Il y a de très grandes guerres qui ont été perdues par des problèmes de communication, par un trouble, je vous dirais, de passer l'information. Les gens doivent savoir ce qui se passe. Et notre but, c'est vraiment, par souci de transparence, on est une courroie de transmission. On veut transmettre ce qui se passe sur l'île de Montréal, que les citoyens savent ce qui se passe. Vous savez, ça touche les citoyens. Tout ce qui se passe dans l'actualité policière, les gens veulent savoir ce qui peut se produire dans leur secteur, dans leur poste de quartier et sur l'île de Montréal en général. Et des gens qui seraient mal informés, le danger de ça, c'est toute la spéculation. C'est les gens aussi qui sont incertains. C'est les gens qui... On parle de sentiment de sécurité. Vous savez, le sentiment de sécurité, des fois, ça, c'est même pas proportionnel à ce qui se passe sur l'île de Montréal comme criminalité. On peut avoir un taux d'homicide qui est très, très bas et un sentiment de sécurité qui pourrait être très mauvais par le fait même si nos communications ne sont pas ajustées.
Alors, on va pouvoir développer toutes ces idées au cours de la prochaine heure. Vous nous avez aussi amené de la belle musique. La toute première pièce que vous avez choisie, Amazing Grace, qui est probablement le chant protestant le plus connu. Pourquoi Amazing Grace?
Je veux dire, c'est une chanson qui est très lourde en émotion, qui signifie beaucoup, beaucoup pour moi. Et c'est le genre de chanson que je dédierais à tous les collègues que j'ai perdus au cours des années, autant militaires que policiers, à des gens comme Benoît Lécuyer, qui est un bon ami, qui nous a quittés. C'est une chanson qui est jouée normalement lors de funérailles civiques. Et je vous dirais, c'est le genre de chanson qui laisse personne indifférent. À la seule écoute, je vous dirais que le poil me hisse sur les bras. C'est vraiment, ça nous rappelle à quel point notre vie peut basculer rapidement. Je la dédierais à tous les gens qui travaillent au service de la population tous les jours et qui ont perdu des collègues. C'est vraiment notre appel de ralliement de se rappeler qu'il y a des gens autour de nous, qu'il ne faut pas les oublier. Du côté militaire, on a perdu plusieurs douzaines de bons collègues au cours des dernières années. Alors, c'est vraiment pour s'en souvenir. Je me souviens, comme dirait notre plaque.
Alors, c'est aujourd'hui un des airs les plus joués à la cornemuse et nous l'entendrons ici joué par le Scottish Pipes and Drums. De retour à l'émission Au gré du temps, avec nous aujourd'hui l'agent Yann Lafrenière, responsable du module Média au sein du service de police de Montréal. Alors, module Média, ça veut dire une grosse équipe, j'imagine.
Oui, c'est une équipe. On a six agents relationnistes qui travaillent jour, soir, nuit. Vous savez, on est le seul service de police en Amérique du Nord à avoir des relationnistes médias sur le terrain 24 heures par jour, 365 jours par année. On a une réalité qui est très différente à Montréal, hein. Vous savez, on a un dédoublement des langues, premièrement, tout le côté anglais et français. Alors, par le fait même, tout ce qu'on fait, les entrevues peuvent être doublées. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a un intérêt médiatique dans les deux langues. Donc, souvent, on va donner des entrevues du côté européen. Je pense à la Belgique, je pense à la France. L'Angleterre, qui est très rattachée encore à nous. BBC, qui souvent veut savoir ce qui se passe dans la petite patrie éloignée. Et nos voisins américains.
Est-ce que ce n'est pas inquiétant, cependant, vu de l'extérieur, toute cette importance que l'on accorde aux faits divers dans les médias, aux dépens parfois d'une information qui nécessite peut-être une plus grande réflexion au plan de l'impact social, que l'on pense par exemple à l'éducation, à la santé et tout le reste. On donne beaucoup d'importance aux faits divers.
Vous savez, c'est un bon point, c'est un bon questionnement qu'on se pose à chaque jour lorsqu'on donne de l'information. Il ne faut pas tomber dans l'information spectacle. On n'est pas un fournisseur de nouvelles non plus. Mm-hmm. Vous savez, certaines personnes pourraient être tenter de croire que notre but, c'est de sortir le plus fréquemment possible et de donner le plus d'entrevues ou être le plus visible. Mais notre but, c'est d'informer la population. Et c'est toujours un... Je vous dirais, c'est une fine ligne qu'il faut être très, très, très prudent, tomber dans le spectacle, le voyeurisme, et donner de l'information qui est juste pour s'assurer que la population sache ce qui se passe. Parce qu'en bout de ligne, lorsqu'il se passe un événement, on parle d'un homicide, les gens veulent savoir ce qui s'est passé rapidement, parce que sinon, ça laisse place. Et vous savez, avec les nouveaux médias, c'est rapide. Hein? La radio peut aller en ondes dans 5 minutes. Les bulletins de nouvelles peuvent aller très rapidement sur le net.
Et la convergence facilite justement cette circulation d'une information à travers plusieurs véhicules d'information.
Oui, on a dû s'adapter aussi. Là, tout ce qui s'appelle le web, vous savez, diffuse des nouvelles rapidement puis ne sont pas toujours vérifiées. Souvent, ce sont les fausses nouvelles qui nous causent le plus de tort et le plus de travail au niveau médiatique à essayer de rattraper ça, voir vraiment ce qui s'est passé. Je peux vous dire honnêtement que dans les débuts du web, il y a plusieurs enquêtes qui ont été débutées sur des événements qui ne s'étaient jamais produits. Tout ce qui s'appelle légende urbaine, vous savez à quel point il y en a fréquemment. Si vous avez un ordinateur chez vous avec un courriel, vous savez, le nombre de fois que vous avez reçu ce type de courriel
ce qu'on appelle pourriels.
Ben, des pourriels, mais même des légendes urbaines.
Oui, tout à fait.
Et pour donner de la crédibilité, souvent, on va rajouter le nom d'une personnalité connue, quelqu'un qui est connu. Et moi, je vous dis, au moins à 3 reprises, mon nom avait été inclus dans cette légende urbaine-là, en disant, oui, le sergent Yann Lafrenière de la police de Montréal me dit que c'était vrai, soyez prudent, et c'était faux. Alors, il faut être tellement prudent. La désinformation peut vraiment causer beaucoup de problèmes.
Alors, jetons maintenant un coup d'œil un peu plus joyeux sur les services policiers. Une chanson de 1949 d'André Rimbourg. André Rimbourg, ça vous dit probablement rien.
J'ai eu peur. Je pensais que vous étiez pour me demander si j'étais là en 1949. Mais j'ai pas vu cette partie-là, M. Dubois.
André Rimbourg, c'était le vrai nom de Bourville. Bourville, en fait, il a emprunté son nom au village dans lequel il a vécu, qui s'appelait Bourville, ce qui lui inspira son nom de scène. Et un jour, il a produit une chanson qui parle des services de police. En fait, la chanson s'appelle « La tactique du gendarme ». On l'écoute.
Doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les voleurs d'auto, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout.
Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car penser, j'ai ma tactique, attendez un peu de succès. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit verre bonasse. Contravention, allez, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. Tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement.
Une note joyeuse en quelque sorte, Monsieur Lafrenière.
Absolument.
Vous disiez que les gens sont plus sensibles maintenant à l'information que diffusent les services policiers. On peut se rappeler qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que il n'y en avait pas de communication, ou très peu. L'information ne circulait pas comme aujourd'hui elle peut circuler.
Oui, je vous dirais qu'on n'a pas eu le choix de s'ouvrir. Le module Relations médias au service de police de la Ville de Montréal a été créé, ça fait 12 ans. Mm-hmm. Avant ça, c'était ce qu'on appelait les relations publiques. Et les relations publiques, vous savez, c'est très large. Il y a les communications, il y a les relations médias, il y a tout ce qui s'appelle affaires publiques, bon, les événements et tout ça. Maintenant, on a dû se faire un module vraiment pour les relations médias, parce qu'il y a cette demande, les gens veulent savoir ce qui se passe. Et c'est pour ça aussi qu'on est le seul service de police à avoir des relationnistes 24 heures par jour. Ça se voit pas, même à New York, qui ont 115 personnes dédiées aux relations médiatiques.
Alors qu'ici, on est une dizaine.
On parle de 6 agents, ouais. Un sergent, moi comme sergent, et d'une équipe d'employés civils qui gèrent les demandes. Il y a des demandes sur tous les aspects. Vous savez, maintenant, c'est global. Hein? Il se passe une tuerie dans une université américaine. Et les médias veulent savoir de quelle façon on réagirait à Montréal. Les parallèles sont dangereux, mais il faut être là aussi pour répondre.
Alors, on parlera des événements importants que vous avez couverts, mais j'aimerais pour l'instant que vous nous présentiez la prochaine chanson, qui est une chanson interprétée par les Petits Chanteurs de Laval.
Exactement, c'est une chanson qui a été adaptée par Gregory Charles, une chanson qui avait été écrite par Jim Thornton à la base. Et c'est la Société de l'Autisme de Laval qui a repris cette chanson-là, qui a eu le disque. Et pourquoi j'ai choisi cette chanson-là? Mon père est en charge de l'organisme qui s'appelle la Société de l'autisme de Laval. Et ça vient en aide à des jeunes autistes qui travaillent, on essaie de les réinsérer, qui travaillent sur une ferme. Alors, toute l'approche en travail avec la nature, avec les animaux, ils viennent en aide à des familles. Je vous dirais honnêtement, pour avoir passé quelques jours seulement, en aide à ces familles-là, ce sont des gens qui sont extrêmement courageux, des gens qui passent au travers des événements qui sont très difficiles, avec des jeunes qui sont formidables, mais des jeunes autistes qui demandent une aide. Et ça, c'est à vie. Hein? C'est pas 18 ans, là, c'est à vie.
Et la chanson a pour titre « C'est moi ».
On voudrait me promettre un jour. jour la guérison me laissait sortir de ma tête, de ma prison. Mais pour l'instant, dans votre monde, je préfère être discret.
Avec nous aujourd'hui à l'émission Au gré du temps de la série Destination Bonheur, le sergent Yann Lafrenière. Monsieur Lafrenière, nous parlions auparavant des événements importants que vous avez pu commenter, en quelque sorte, auprès des médias. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui vous reviennent particulièrement à la mémoire?
Je voudrais que tous les gens qui ont connu la crise du verglas ont vu à quel point les communications étaient importantes à ce moment-là. Il y avait plusieurs organismes qui étaient impliqués, que ce soit nous, Hydro-Québec, les pompiers. Alors, c'était toute la logistique de donner la bonne information. Et ce qui était compliqué, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'avaient aucun outil pour nous entendre. Alors, on voulait bien communiquer des messages importants.
Tout à fait.
Mais vous retrouvez avec une population qui souvent n'avait même pas de radio émetteur, n'avait même pas de radio pour entendre ce qu'on avait à dire. Alors, il a fallu s'adapter. On peut y aller par la suite avec 2001, qui était une année charnière pour ce qui est des communications, pour ce qui est des services de police aussi, avec les attentats qu'on a connus du côté américain. Grosse répercussion du côté montréalais aussi, où il y avait toutes sortes de rumeurs, où on avait aussi des simili-colis piégés à tous les jours, où les gens nous appelaient à tous les jours. On recevait jusqu'à 1000 appels pour des colis piégés qui en étaient pas.
Donc, l'impact auprès de gens qui ne sont pas nécessairement très, très sensibles au fait d'apeurer la population est important quand survient un événement, par exemple, comme celui du 11 septembre. Il y a des gens qui vont appeler pour des colis piégés alors que ça n'existe pas. Quelle est l'idée de faire peur aux gens de cette manière?
Vous savez, les gens, bon, dans la plupart des cas, c'était des gens qui avaient pas de malice. Les gens réagissent, les gens sont émotifs aussi. Dès qu'on parle de sécurité, vous m'avez demandé plus tôt en émission, est-ce qu'on en parle trop des faits divers? Mais écoutez, quand on parle de la sécurité, ça fait partie, quand on regarde la pyramide de Maslow, c'est des choses très importantes pour les gens, la sécurité. Et lorsqu'ils se sentent touchés, lorsqu'ils ont crainte pour eux, lorsqu'ils ont peur pour eux, ils réagissent promptement. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu des milliers d'appels. Alors, les communications à ce moment-là, c'est plus... Les communications sont opérationnelles. C'est-à-dire que ce qu'on va dire va changer réellement le travail des policiers sur le terrain. Il faut passer des bons messages qui sont réels.
Mais remarquez que les autorités peuvent aussi jouer dans cette sphère-là et entretenir le climat de peur. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis particulièrement, où le régime en place a aussi maintenu un état, entre guillemets, de peur pour peut-être mieux contrôler les populations.
Absolument. Et c'est pour ça que la ligne, je reviens souvent à ce terme-là, la ligne est très, très fine entre l'information spectacle, en créer de la nouvelle, faire de la nouvelle et diffuser ce qui se passe.
Vous êtes conscient de cette responsabilité?
Ah, absolument, absolument. C'est extrêmement difficile. Et vous savez, à chaque fois, comme relationniste, comme responsable de relations médias encore plus, avant de sortir une information, on se demande toujours le bien fondé de celle-ci. Et je vous dirais en plus que récemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de causes en déontologie policière qui est venue changer notre façon de travailler. Il y a 12 ans, je ne travaillais pas de la même façon que je travaille aujourd'hui. Vous savez, c'est très difficile. On doit donner l'information. Les citoyens, parfois, peuvent même croire qu'on cache l'information parce qu'il y a des choses auxquelles on ne répond pas. Et je dis souvent la blague avec les journalistes, ça va me prendre 30 minutes d'expliquer pourquoi je ne te réponds pas au lieu de prendre 30 secondes en donnant la réponse. C'est très difficile. On a beaucoup, beaucoup, comme policiers, contrairement à d'autres métiers, lorsqu'on veut communiquer, On se retrouve des fois menotté par une panoplie de lois, de règlements et la déontologie policière aussi.
Alors, ça tombe bien parce que vous nous avez choisi une pièce qui va nous amener à réfléchir. C'est Carmina Burana, la cantate scénique composée par Karl Orff et qui est fondée sur des poèmes médiévaux. Vous savez que Carmina Burana, ça a été découvert au monastère de Bennigborn, en Allemagne, où ont été trouvés les manuscrits, d'où le nom. Vous avez choisi le mouvement peut-être le plus célèbre, O Fortuna, je crois. Pourquoi?
Écoutez, c'est une pièce qui est très dramatique, oui, et je rassurais tout le monde. C'est... je vous dirais honnêtement, le but de cette chanson-là, je la trouve merveilleuse. Elle est bien jouée, bien interprétée. C'est une pièce qui est très émotive, qui vient nous chercher, et c'est une pièce que j'adore.